pour...
Merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. On vous retrouve demain et à présent, on va se pencher sur le séisme politique dont les conséquences dépassent largement le cadre de la France et la condamnation de Marine Le Pen.
Le débat du jour. Romain Osoui.
Elle était en tête des intentions de vote au premier tour de la prochaine présidentielle de 2027. Selon un sondage publié hier et ce soir, eh bien, elle a de grandes chances de ne pas pouvoir participer à cette élection. L'avenir politique de Marine Le Pen se trouve totalement suspendu après qu'elle a été déclarée coupable ce lundi de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du Front National, l'ex-Rassemblement National. Marine Le Pen condamnée à 4 ans de prison. Marine Le Pen qui écope également et surtout, dira-t-on, d'une peine de 5 ans d'inéligibilité. Elle va faire appel, elle l'a annoncé, mais rien n'indique qu'un deuxième procès pourra intervenir avant la prochaine présidentielle. D'où notre question ce soir, est-ce que le Rassemblement National est plombé? Est-ce que le parti a perdu sa grande chance d'accéder au sommet de l'État? Quelle va être sa stratégie après ce que l'on peut appeler un coup de tonnerre? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, tous trois à mes côtés en studio, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Face à vous, Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne et Raphaël Delvolvé. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Journaliste au service politique de Radio France Internationale et vous suivez particulièrement le RN. Alors justement Raphaël, on va commencer avec vous. Pour nos auditeurs qui n'ont pas tous suivi évidemment ce qui a été annoncé ce matin au tribunal correctionnel de Paris, est-ce qu'on peut rappeler le détail de ce délibéré à l'encontre de Marine Le Pen pour bien en saisir les enjeux finalement et ce pourquoi elle a été condamnée?
Alors je vais aller droit au but, ce qu'on reproche à Marine Le Pen, ce pourquoi Marine Le Pen est condamnée, je reprends les termes de la présidente du tribunal, c'est d'avoir été, je la cite, au cœur d'un système avec autorité entre les années 2009 et 2016, un système de détournement de fonds publics qui consistait, à l'époque Marine Le Pen était eurodéputée, elle siégeait à Strasbourg, et chaque député européen, il faut le savoir, dispose d'une enveloppe pour pouvoir embaucher un assistant parlementaire. Alors on a fait signer des petits contrats à des assistants parlementaires, en tout cas sur leur contrat c'était indiqué comme tel, mais l'enquête a démontré qu'en réalité ces employés ne travaillaient pas réellement pour des dossiers européens. Il y en a par exemple une d'entre elles qui n'aurait travaillé que 12 heures au Parlement de Strasbourg, mais en réalité pour le parti. Ouais. Donc cela revient à détourner de l'argent public, de l'argent qui est mis à disposition des députés européens pour leur travail de député, mais qui servait en fait pour des intérêts politiques. Voilà ce que le tribunal a dit avoir détecté. Voilà.
Donc la peine, on a dit 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison, dont 2 fermes. Et on parle...
Aménageable avec bracelet électronique.
Alors, c'est ça. Alors,
Marine Le Pen n'ira pas en prison, ça c'est la première certitude qu'on a. Peine d'inéligibilité de 5 ans, c'est la plus lourde de tous ceux qui étaient prévenus. Il y avait entre une vingtaine de prévenus. Marine Le Pen donc se voit infliger cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est ça dont on va beaucoup parler ces prochains jours, dont on parlait déjà depuis le réquisitoire. L'exécution provisoire, je fais vite.
C'est applicable tout de suite.
C'est non seulement... Donc, c'est assez contre-intuitif, mais on applique la peine immédiatement, et surtout, elle n'est pas suspensive. C'est-à-dire qu'en droit français, généralement, quand on dépose un recours, qu'on fait appel, pour faire simple, la peine à laquelle vous avez été condamné en première instance est suspensive et est suspendue. Sauf qu'avec l'exécution provisoire, vous avez beau faire appel, la peine d'inéligibilité n'est pas suspendue parce qu'on part du principe, et là je cite encore la présidente du tribunal, qu'il y a un risque de récidive.
Frédéric Savicky, alors on savait le RN fébrile évidemment ces derniers jours dans l'attente de cette décision. À quel point est-ce que c'était prévisible? À quel point est-ce que c'est on a parlé de séisme politique, le mot n'est pas trop faible.
C'était prévisible, enfin, dans la mesure où la loi qui a été adoptée, loi dite Sapin 1 et Sapin 2, en 2016, stipulait précisément, effectivement, avait introduit cette possibilité que l'inéligibilité ne puisse pas être suspendue par un recours. Alors, pour des raisons qu'il faut rappeler, qui sont tout à fait compréhensibles, c'est-à-dire que là, Marine Le Pen reste députée, donc l'inéligibilité ne porte pas sur le fait qu'elle devrait démissionner, mais sur une prochaine prochaine candidature à une élection. Donc si vous faites appel, évidemment, par exemple, dans ce cas-là, Marine Le Pen aurait pu se représenter en 2027, voire être élue, soit députée, soit peut-être présidente de la République. Et à ce moment-là, la peine d'inéligibilité, tout simplement, aurait dû attendre pour être effective qu'elle n'ait plus de mandat en cours. Donc probablement au minimum 2032. Et ouais. Si elle avait été... Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est ça que le législateur a aussi voulu éviter. Il y a le risque des récidives qui a été mentionné, mais aussi le fait qu'il faut que ces peines-là puissent quand même s'appliquer le plus près possible de la date où les délits ont été commis, ça a été rappelé, c'est entre 2009 et 2016, donc c'était déjà il y a 8 à 9 ans, et donc évidemment, voilà. Donc, est-ce que les juges auraient dû prendre une autre décision à ce moment-là, c'est là que la décision était politique, s'ils avaient finalement renoncé à prononcer cette peine, puisque à ce moment-là, ils se seraient dit, effectivement, on ne veut pas intervenir soi-disant dans la procédure électorale, mais ceci dit, on n'applique pas la loi. Donc, ça aurait été aussi une critique qui aurait pu être adressée à eux. Moi, je pense que le Rassemblement national a fait preuve. Alors, est-ce que c'est une façade ou est-ce que c'est une conviction un peu naïve a fait preuve quand même de beaucoup de naïveté en imaginant que, vu l'ampleur, quand même, 4 millions d'euros de détournement d'argent public, c'est 4 millions. C'est aussi des formes d'enrichissement personnel indirect parce que les salaires qui ont été attribués à ces assistants du parti étaient souvent des salaires très très élevés, y compris pour des tâches assez subalternes.
Mais ils ont fait preuve de naïveté de quoi de penser qu'ils pouvaient ne pas être condamnés.
Naïveté d'avoir mis en place ce système pendant aussi longtemps, ça c'est la première quand même chose. Et deuxième chose, de ne pas sembler en tout cas avoir découvert qu'il y avait ce risque, qui était clairement, à mon avis, quand même très probable. Voilà.
Philippe Moreau-Chevrolet, à quel point ils ont découvert ce risque ? À quel point est-ce que finalement le RN ce matin, Marine Le Pen en tête, savait qu'il y avait peut-être de grandes chances que cette sentence soit annoncée ?
Personne ne s'y attendait à cette sentence. On pensait qu'elle allait être condamnée, mais sans inéligibilité, ou avec une façon de faire qui aurait permis qu'elle se présente en 2027, un délai peut-être moindre. C'est ce que tous les observateurs pensaient jusqu'à très récemment. Donc ils ont été pris de court, littéralement. Alors c'est évidemment un mauvais indice pour leur santé politique, militante, intellectuelle, qu'ils aient été pris de court, parce qu'on est supposé anticiper quand même le pire. En politique, on passe son temps à anticiper le pire. Donc, les conseillers, au moins l'entourage, auraient dû s'y attendre. Visiblement, ce n'est pas le cas, vu la disparité des réactions du RN, vu l'impréparation manifeste des éléments de langage. Tout ça n'a pas été prévu. Elle est quand même sortie de la salle, c'est un peu giscardien, quoi.
C'est vrai qu'on ne l'a pas
évoqué, ça. Je tourne le dos à ma carrière politique. Elle quitte la salle avant d'avoir son verdict. Elle a dû sentir quand même ce qui était en train d'arriver. C'est un bouleversement majeur pour la
condamnation
politique
avait été
française.
Annoncée, mais pas la peine d'inéligibilité.
Oui, mais je pense qu'elle avait compris à ce moment. Elle avait compris à ce moment-là, je pense.
Et il y a même un contraste saisissant. On la voit arriver au tribunal avec un air plutôt serein, sûr d'elle. Même ça a été le cas pendant tout le procès. Elle est venue. Vous savez qu'elle est ancienne avocate, Marine Le Pen. Elle est venue presque plaider elle-même 3 jours par semaine, quitte à délaisser son groupe très important à l'Assemblée nationale. Et elle ressort de là, effectivement, le visage blême, pour aller s'enfermer, accrochez-vous, presque 6 heures au siège du Rassemblement national dans le 16e arrondissement. Elle vient tout juste de quitter les bureaux.
D'où il est sorti quelque chose ?
Alors, elle va aller aux 20h de TF1 ce soir. Je pense qu'elle réserve la surprise pour le plus grand nombre.
Ouais. Ce qui est le circuit classique des gens, aux yeux des Français, aller aux 20h de TF1, c'est être coupable quand même. Il n'y a que des défilés, c'est quasiment des mugshots, quoi. C'est des images judiciaires. Quoi. C'est ceux qui vont aux 20h de TF1, d'abord c'est un peu ringard, mais en général, ils viennent pour s'expliquer dans des affaires compliquées. Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent comme manière de se défendre.
Nous qui avions les yeux rivés sur les dépêches de l'agence France-Presse, finalement, l'annonce de son intervention aux journalistes télévisés de TF1 est même intervenue avant l'annonce de son inéligibilité.
Oui, il y a plusieurs choses étonnantes. Il y a la rapidité de cette annonce, et puis donc elle devait sentir les choses, c'est ce que vous venez de dire, mais c'est vrai. Et puis il y avait aussi la rapidité de la réaction de Vladimir Poutine. Alors, je sais pas, il devait être branché sur RFI, il devait écouter RFI depuis Moscou. Il a dû vraiment être branché pour comprendre et apprendre des choses. Ça devait avoir, pour le coup, probablement le Kremlin avait mieux anticipé sa communication.
Ah bon, vous avez l'amical de l'extrême droite européenne, mais mondiale, je vous fais la liste. Le fils de Donald Trump, prend fait et cause pour Marine Le Pen, Elon Musk, Viktor Orban, le Hongrois, le Premier ministre, Matteo Salvini, le patron de la Ligue en Italie, qui est l'allié du RN au Parlement européen, et puis le Kremlin, vous l'avez rappelé.
Là, c'est le début de la victimisation assumée.
C'est le début d'autre chose. On est rentré dans l'extrême droite française et nous avec, et on est rentré dans une séquence complètement nouvelle. On a rejoint la mondialisation d'extrême droite. Marine Le Pen avait une stratégie un peu différente de notabilisation, de normalisation. Là, on est rentré dans l'ère d'Elon Musk, dans le muskisme ou le trumpisme, avec Bardella qui est une page blanche, qui est super bon sur TikTok, l'algorithme l'aide beaucoup, mais qui est super bon sur les réseaux sociaux, qui va nous construire un truc très masculiniste, très américain dans la proposition, un peu un McDo politique d'extrême droite aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, je dis pas qu'il va forcément perdre. Je suis pas dans cette... parce que je vois ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe un peu partout en Europe, les machines d'influence qui se mettent en place. Il va avoir Musk avec lui, beaucoup d'argent. On a vu qu'un groupe de presse soutenait déjà Jordan Bardella avec un tirage d'une autobiographie complètement vide à 150 000 exemplaires, qui est quand même dans toutes les gares. Ouais. Donc il y a quand même un écosystème qui s'est mis en place.
Et qu'on se fait signer.
Sur le pape. Ouais.
Jusqu'en Israël.
Il y a une pétition apparemment qui vient d'être lancée.
Pétition lancée par Jordan Bardella qui appelle à la mobilisation populaire et pacifique.
Oui, où le ton monte très haut. Hein. Ça n'est plus le gouvernement des juges, je cite, mais la dictature des juges. Hein. On sent que le ton est monté très très haut. Après,
c'est du marketing, la pétition. Hein. Ça permet d'avoir des adresses mail de gens qui vous soutiennent et de les utiliser après en campagne.
C'est pas un chiffre aussi. Hein.
Frais balancé.
Frédéric Savicki, quand l'extrême droite européenne appelle à poursuivre le combat, ça peut se traduire comment, cette poursuite du combat?
Écoutez, pour l'instant, c'est très rhétorique. Hein, alors même si dans la tradition d'extrême droite, il y a toujours la tentation de recourir à la rue ou à la menace ou à la violence, là, on voit bien quand même qu'en recourant à une pétition, en n'appelant pas à une manifestation pour le moment, en utilisant plutôt effectivement une rhétorique verbale un peu extrême, on montre effectivement, on met en scène une espèce d'injustice et de dénonciation du système. Ça, c'est quand même très classique de toutes les extrêmes droites internationales européennes. Mmh. Donc, évidemment, et les juges représentent, comme les médias, finalement, des symboles de ce système qui broierait les idées d'extrême droite. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu difficile à tenir comme discours quand vous avez effectivement Trump au pouvoir aux États-Unis, Orban, beaucoup quand même de groupes de presse qui ouvertement désormais propagent les idées d'extrême droite, donc continuer à expliquer que ce serait le système qui broie alors qu'ils sont aujourd'hui beaucoup dans le système pour certains d'entre eux, c'est un peu compliqué. Donc on verra jusqu'où va cette dénonciation. Je ne suis pas certain que tous les électeurs du Rassemblement National vivent ça comme une injustice suprême. Hein, d'abord parce que l'attachement au parti aujourd'hui est au moins aussi important que l'attachement à Le Pen. Père et fille, il y a quand même une émancipation, disons, vis-à-vis de cette incarnation très personnelle hein, de ce parti. J'entendais là sur les différents médias beaucoup de gens dire ça ne change rien, on va continuer à voter pour le Rassemblement National, ce sera peut-être Bardella, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, on ne sait pas pour le moment. Donc il n'est pas sûr que finalement il y ait forcément une réaction en quelque sorte d'émotion et de sympathie généralisée pour Marine Le Pen. Enfin, on verra un petit peu.
Ni d'aversion. Philippe Morochevrolet, les conséquences quelles peuvent être de cette condamnation sur l'opinion publique?
Ça peut clairement énerver la base des militants les plus convaincus. Ça va les victimiser, ça les renforce dans l'idée qu'ils sont vraiment anti-establishment. Justement, à un moment, enfin, le truc, c'est que ça vient en conflit avec la stratégie de Marine Le Pen. Marine Le Pen a essayé d'implanter le RN en se disant on va notabiliser, on va aller chercher les électeurs raisonnables. Les vieux électeurs qui sont tristes, qui sont quand même un peu énervés, un peu déçus par Macron, on va les récupérer. Pour tout ça, il fallait ripolliner un peu la surface de la boutique Le Pen. Elle s'y employait jour et nuit, et là, patatras, tout est remis en cause. C'est-à-dire qu'on va avoir les plus radicaux qui prennent le pouvoir avec des méthodes radicalement différentes. Et on voit bien le ton de la pétition de Jordan Bardella. Ça va être un autre ton, ça va être d'autres équipes, ça va être d'autres manières de faire. Et donc, on est passé d'une extrême droite qui essayait de se notabiliser à une extrême droite qui dit non, nous on va prendre le pouvoir mais sur nos propres termes. C'est ça qui a changé ce soir. Après, on parle de scénario à la Poutine avec Marine Le Pen qui deviendrait la première ministre de Bardella. C'est des propositions. Ouais.
Moi, j'allais vous demander si on peut parler de Trumpisation dans la stratégie à venir.
Ah oui, oui, complètement. C'est la victoire de Musk et de Trump. Ouais. Il y a du mal pour l'extrême droite, mais il y a aussi, il faut le comprendre, des choses qui l'aident. Et parmi les choses qui l'aident, il y a ça. Il y a le fait que ça va radicaliser, redonner. Ouais, ça va naturellement, quelque part, briser complètement l'héritage Le Pen. On liquide le passé. On part sur des bases qui sont celles de tous les voisins et puis de l'extrême droite américaine. On va rouler en Tesla, c'est ça que ça veut dire.
Frédéric Savicki, un tel tournant ?
Non, je ne crois pas. Pour l'instant, c'est un peu prématuré quand même de se projeter de cette façon-là. D'abord parce que Marine Le Pen reste députée, reste présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. La stratégie de conquête du pouvoir n'implique pas forcément que Bardella éclipse Marine Le Pen tout de suite. D'abord, lui, Bardella prendrait des risques à trop s'en démarquer. Et puis, ça a été indiqué à l'instant, la perspective que Marine Le Pen puisse être éventuellement première ministre de Bardella, c'est pas complètement non plus à exclure. Et pour arriver à 50% de l'électorat, pour gagner une élection présidentielle, je pense pas que la stratégie, on pourrait dire une stratégie muskienne ou trumpiste en France soit opérante, parce qu'il y a faut pas oublier que Trump a été élu en prenant la conquête du Parti républicain, ça c'est très important, et en ralliant progressivement le Parti républicain dans un système donc biparti. Pour la France, c'est plus compliqué, il y a plus de concurrence. D'abord à l'extrême droite, il y a la concurrence de Zemmour, il y a aussi la concurrence de LR qui est de plus en plus, pourrait dire, sur ce terrain à travers des Retailleau ou des Wauquiez. Et donc, aller dans une stratégie qui serait une stratégie ouvertement de rupture, quitte d'ailleurs même à adopter des positions très très soit très conservatrice, soit aussi très très libérale, anti-libérale sur le plan des mœurs, c'est risqué. Donc je pense pas que le RN abandonne cette stratégie de dédiabolisation et c'est pour ça qu'ils sont un peu gênés, je pense, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'appeler trop ouvertement à dénoncer dans la rue la justice, le complot, etc., c'est quand même prendre un gros risque.
Avant de passer à la deuxième partie du débat, parce que Philippe Morochard-Wallet, effectivement, quand vous dites, voilà, demain tout le monde roulera en Tesla en France.
Non, pas tout le monde, l'extrême droite va rouler en Tesla.
Oui, mais à quel point est-ce que ce sera suffisant, ça permettra d'élargir, de dépasser le fameux plafond de verre du RN et d'élargir l'électorat pour avoir accédé à l'élection suprême.
Ça, c'était la stratégie de Marine Le Pen. Et on pourrait lui objecter qu'elle a échoué jusqu'à présent à le faire, que les gains ont quand même été minimes, il y a des gains au Parlement, etc. Mais ça a quand même été des gains en termes d'exercice du pouvoir qui sont relativement minimes. Ça fait quand même trois fois qu'elle est candidate. Ouais. C'est juste, ça va remettre à zéro les compteurs au niveau de ce qu'est l'extrême droite française, comment elle conçoit sa conquête du pouvoir et aujourd'hui les modèles de réussite. Alors tout ça est vrai, c'est-à-dire que s'il y a de la concurrence, les électeurs préfèrent en général les choix les moins radicaux. Alors la question avec la Reconquête, c'est une bonne question, parce que Reconquête a jusqu'à présent été beaucoup plus radicale que le RN. Mais Bardella peut incarner, c'est une page blanche, Jordan Bardella. C'est une page blanche.
On va l'évoquer.
On peut imaginer que l'extrême droite se recompose d'une manière, réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'alt-right, c'est-à-dire l'extrême droite internationale maintenant. Ça veut dire des méthodes d'influence, des méthodes de conquête du pouvoir extraordinairement violente, qui mise beaucoup sur les réseaux sociaux, avec énormément d'argent et d'appui de groupes financiers qui aujourd'hui déjà soutiennent Jordan Bardella. L'écosystème médiatique, il a complètement changé. On ne s'en rend pas compte parce qu'en France, on a le sentiment qu'on vit un peu dans un cocon. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait la campagne américaine, d'abord, c'est des gens qui sont en dehors du système média traditionnel. Et puis ensuite, en France, comme aux États-Unis, on a des groupes de presse d'extrême droite puissants aujourd'hui. C'est la réalité du pays et de notre écosystème. Donc c'est quand même une réalité. Enfin, la plupart des intellectuels qui passent médiatiquement sont droite-extrême droite. C'est extraordinairement préoccupant.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Est-ce que le Rassemblement national est plombé, la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, après la condamnation de Marine Le Pen, la chef de file des députés RN, et évidemment qui faisait pas mystère de son souhait d'une quatrième candidature à l'élection présidentielle en 2027, qui est condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité, qui va faire appel Marine Le Pen, et qui doit s'exprimer dans un peu plus de 20 minutes dans le journal télévisé de TF1. On va évoquer à présent ce qui peut ressortir de cette intervention. intervention. Mes trois invités, Philippe Moreau-Chevrolet, qu'on entendait, qui est professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil, Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et Raphaël Delvolvé, journaliste au service politique de RFI, qui suit pour Radio France Internationale le Rassemblement National. Raphaël, on a tenté d'évoquer le plus ou moins long terme du Rassemblement National, mais là, dans moins de 30 minutes, Marine Le Pen doit s'exprimer. Quelles sont les cartes qui sont à sa disposition? Alors, est-ce qu'elle peut dégainer la carte Jordan Bardella? Est-ce que ce soir, elle peut dire « je prends ma retraite politique, c'est la fin de ma carrière et il y a trop d'incertitudes sur mon avenir
». Déjà, je pense qu'il y a plus que des cartes, il y a deux chemins. Il y a le chemin judiciaire, donc la voie de recours. Son avocat l'a déjà dit, elle va faire appel. Et à partir de ce chemin judiciaire, il y a le chemin politique. Et on comprend qu'en interjetant appel, et je rappelle aussi que son avocat l'a dit tout à l'heure en fin de journée, il demande un procès en appel avant 2027. On comprend qu'elle n'envisage pas de renoncer tout de suite.
Mais la grande question, c'est quand est-ce qu'elle saura si elle aura une réponse à cet appel avant 2027?
Alors, c'est
et qu'est-ce qui peut se passer dans les deux ans qui
viennent? C'est tout l'enjeu de ce soir. Où généralement, quand on va aux 20h de TF1, on prend l'opinion à témoin. Le 20h de TF1, ça reste, malgré les réseaux sociaux aujourd'hui, le journal le plus regardé de France. Est-ce qu'elle va lancer un appel solennel à la cour d'appel pour audiencer, comme on dit, le plus rapidement possible ce second procès? C'est tout à fait possible. C'est ce qui semble même le plus probable aujourd'hui. Elle peut peut-être là invoquer une autre affaire politico-judiciaire qui avait percuté la campagne de 2017, qui était l'affaire Fillon. L'instruction était allée plus vite qu'à l'habitude.
Frédéric Savicky, elle va avoir, selon vous, on attend peut-être un ton assez combatif.
Jusqu'à présent, le discours de Marine Le Pen, comme d'ailleurs de Jordan Bardella et de la direction du Rassemblement National, c'est de nier les faits. C'est-à-dire que on n'est pas responsable.
La cabale.
L'incompréhension administrative. On est innocent.
Voilà. Et puis, de temps en temps, on dit les autres ont fait pareil. Et puis, on ne savait pas. Donc, si elle continue sur ce registre-là, ça va quand même devenir un peu compliqué. Parce que là, il y a eu une instruction très longue. Il y a eu un jugement très, très détaillé. La presse a largement relayé les faits. Donc, c'est un peu compliqué de jouer cette carte de l'innocence pour justifier justement une procédure d'appel. Parce que là, rien ne laisse présager qu'un autre jugement soit, en tout cas, change la donne. Donc, bon, pourquoi pas, ça permet d'occuper le terrain médiatique, d'essayer de brouiller un peu la situation. Mais sur le fond, le problème qu'on évoquait reste le même.
Ouais, est-ce que c'est tenable? C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui va se passer là?
Une présidente de parti, en tout cas une présidente de groupe, ne peut pas exiger de la justice qu'elle aille plus vite qu'elle ne fait habituellement. Je signale par exemple que lors de l'affaire des collaborateurs parlementaires du MoDem, le parquet en février 2024 a fait appel de la décision qui a blanchi François Bayrou. On attend toujours l'organisation du procès. On ne sait pas quand c'est ce que ce sera. Donc le procès d'appel. D'un côté, la justice, on voit bien, prend du temps. Et là, il faudrait aller vite pour régler un problème interne à un parti politique. Un parti politique, c'est pas une personne. Donc, y a des candidats, il y a des procédures. C'est pas parce que tel leader peut pas se présenter que un autre ne peut pas être désigné. Il y a pas d'urgence, disons, démocratique. Le Rassemblement National n'est pas interdit de se présenter à l'élection présidentielle prochaine où on n'est pas dans une peine collective, on est dans une peine individuelle, donc c'est quand même assez difficile, disons, je pense, de vouloir emprunter à la fois ce chemin judiciaire, comme vous disiez, et le chemin politique, parce que le chemin politique, ça risquerait de finalement pénaliser son propre parti, c'est-à-dire plus on laisse penser que Marine Le Pen pourrait quand même se présenter le moment venu, et moins on empêche finalement le parti de s'organiser derrière un ou une autre candidate et de se mettre en ordre de bataille, de construire un programme. Donc ça risque à ce moment-là de devenir un boulet finalement collectif que de traîner cette obstination.
Philippe Moreau-Chevrolet, il y a un risque de paralysie pour le RN
Oui, il y a un risque de...
Comment transformer, encore une fois, cette condamnation en une force ?
Il y a... La transformer en force, ça veut dire embrasser vraiment ce qui se passe à l'étranger, radicaliser la base et repartir en conquête avec une d'une façon musclée, avec des équipes de Bardella, et en essayant de récupérer ce qui peut récupérer...
Et quelle place pour Marine Le Pen ?
De l'ancienne équipe. Marine Le Pen, c'est une vraie question. Soit ils la prennent un peu comme en... enfin, ce qui serait le plus logique, c'est-à-dire la garder, en gros la mettre dans un rôle valorisant, expliquer qu'on a un scénario à la Poutine, c'est-à-dire qu'en fait, bah oui, il sera président, mais elle sera Premier ministre, et puis dans les faits, peut-être même que c'est elle qui va diriger un peu, je ne sais pas. C'est difficile à vendre.
En tout cas, vous l'imaginez reculer ?
Enfin, elle ?
Bah, s'il y a cette perspective, s'il y a ce projet d'un Premier ministre qui serait Marine Le Pen avec un président Bardella, ça veut dire qu'elle fait une croix sur ses chances que son appel réussisse ?
Là, l'appel n'est pas suspensif, a priori. Donc, elle est à ce stade, elle n'est pas dans la course pour 2027 et ça ne va pas changer. Donc, elle peut entretenir l'illusion d'un comeback.
Et en fait, et encore une fois, quelle vie politique, quelle place, quelle stratégie,
ce serait pas très raisonnable. Bah oui. Donc, je pense.
Mais il y a une décision à prendre du coup.
Il faut comprendre, c'est la fin du clan Le Pen à la tête du RN et de l'extrême droite française.
Il faut qu'elle acte quelque chose alors.
Alors qu'il était quand même bien positionné pour 2027, c'est un énorme coup de frein avec une stratégie qui était donc normalité, normalisation, qui s'arrête. Ça va forcément créer du chaos et du vide et de l'engueulade au sein du RN pendant un moment. Pour moi, le plus logique, c'est que sous la pression extérieure et sous la pression aussi de la jeunesse d'extrême droite et du milieu d'extrême droite qui s'est constitué en France aujourd'hui, Bardella finisse par devenir au moins le poster boy, la tête d'affiche, comme on dit aux États-Unis, et avec une Marine Le Pen qui va être soit marginalisée, soit avec eux. Mais ça va être difficile d'exister indépendamment.
Et même sans outrance, ils peuvent capter un vote qu'on appelait autrefois contestataire, parce qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à mesurer, et même, je dirais, à contrer en France, et qui monte, et qui monte, et qui monte. C'est un ressentiment très fort du peuple de droite, qui a le sentiment qu'on lui vole un peu ces élections. Ça a commencé en 2017.
Vous avez fait référence à François Fillon.
Très récemment, la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui s'est vu requérir contre lui dans un autre procès des peines de prison spectaculairement lourdes, n'ayons pas peur des mots, 7 ans de prison ferme, c'est l'affaire Kadhafi. Et puis... Et ça, c'est ce que disent souvent les électeurs de Marine Le Pen. Je les ai entendus à Hénin Beaumont tout l'après-midi. La fermeture, vous savez, de la chaîne de télévision C8 du groupe Bolloré, où officiait Cyril Hanouna, une émission regardée, privilégiée même par la droite, voire l'extrême droite.
Mais l'expression gouvernement des juges, ça capte largement l'électorat de droite, selon vous ?
En tout cas, c'est un concept qui n'est pas nouveau en France. 1997, un livre qui s'appelle Le coup d'état des juges, qui est signé par un journaliste d'alors qui finira candidat à la présidentielle, qui s'appelle Éric Zemmour, qui fait un peu écho à ce dont on a beaucoup parlé aux États-Unis, vous savez, l'état profond, le Deep State, voilà, qui appelle à des ressentiments, moi, je dirais ça comme ça.
C'est une logique de la colère, en fait. Il faut comprendre qu'on est dans une phase, c'est tout à fait juste, où on est soit l'objet de la colère des gens, soit l'incarnation de la colère des gens. Il n'y a plus vraiment place entre les deux, c'est une polarisation qui est extrêmement forte. C'est pour ça que je n'exclus pas un scénario Bardella, c'est parce que ça va avec la polarité qu'on ressent en ce moment tous. Essayez d'avoir une discussion politique apaisée avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, c'est extraordinairement compliqué aujourd'hui. Ça peut vraiment dégénérer assez vite sur n'importe quel sujet. C'est même pas des sujets particulièrement clivants, donc c'est un constat. Donc lui est mieux placé pour endosser la colère peut-être que Marine Le Pen l'était, et peut-être que c'est ça la nouvelle donne politique, c'est possible.
Il n'aura que 31 ans en 2027, ouais, si c'est lui le candidat.
C'est le gros bémol, c'est que les Français d'abord ils votent pour un président qui est un président, les tickets ça marche pas bien, et puis deux, effectivement il est jeune, et on sort d'un président jeune qui a pas complètement donné satisfaction. Donc
et Marine Le Pen, pardon si je peux, en 10 secondes, avait quand même réussi à conquérir des nouveaux profils, des retraités sont de plus en plus nombreux à voter pour elle.
C'est ça qu'il va falloir regarder, ça va être compliqué.
CSP+, ça va être l'enjeu.
Et pour conclure, je vais donner cette étude Odoxa qui a été qui est paru juste avant le jugement et qui dit que Jordan Bardella est davantage apprécié. Ça aussi, c'est une donne importante. 30% par les Français que Marine Le Pen, 16%. Le débat continue. Merci beaucoup à vous trois. Merci Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Raphaël Delvolvé, journaliste au service politique de Radio France Internationale. Merci de nous avoir écoutés. Bougez pas, le grand journal du soir dans 30 secondes et puis notre édition spéciale.